Donc, ce matin, je poursuis dans la série « Découvrir Jésus ». Et c'est une série que j'aime beaucoup, qui est formidable. Nous sommes dans l'Évangile de Jean. Et on s'est coordonné avec les différents prédicateurs durant l'été pour qu'on puisse prêcher des textes différents pendant tout l'été. Et moi, dès le départ, j'ai dit à tous les autres prédicateurs, « Vous ne touchez pas à Jean 21, je le garde pour moi. » C'est mon texte. Fait que là, il y avait des gens déçus qui avaient envie de prêcher là-dessus. Ah, mais c'est mon privilège. Je suis quand même pasteur ici de l'Église. Fait qu'il faut bien que j'ai un petit privilège en quelque part. Donc, ce matin, je vais prêcher dans Jean 21. Et le titre de mon message, c'est le pardon. Amen. C'est le pardon et l'appel de Jésus. Le pardon et l'appel de Jésus qu'on va découvrir ensemble dans ce texte qui est vraiment formidable. C'est le dernier chapitre de l'Évangile de Jean. Et dans ce chapitre-là, on va voir, entre autres, une discussion entre Jésus et Pierre, et l'apôtre Pierre. Une discussion que vous connaissez sûrement si vous êtes chrétien depuis longtemps. Et on va découvrir toutes sortes de trésors, de clés et d'éléments qui vont nous motiver, nous encourager ce matin, et qui vont nous parler et qui vont nous révéler un peu plus qui est ce Jésus si extraordinaire et si formidable. Est-ce que vous êtes prêts avec moi à plonger dans la parole de Dieu ce matin? Dites « Amen ».
Amen.
Donc, on commence Jean 21 à partir du verset 1. « Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les rives du lac de Tibériade. Voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, qui est venu de Cana en Galilée, et les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus se trouvaient ensemble. » Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Et j'arrête ici pour l'instant. Oui, je vais prêcher le reste du message. Mais j'arrête ici un instant parce qu'il y a une phrase qui a capté mon attention. Ici, on voit Pierre, Simon-Pierre. Quand on lit les Évangiles et les Actes des Apôtres, on découvre cet homme-là, un homme qui est plein de caractère, un homme qui est fougueux. Un homme qui est spontané. Un homme qui dit tout haut ce que les autres pensent tout bas. Connaissez-vous quelqu'un comme ça? Pointez-le pas ce matin. Peut-être que c'est vous qui êtes comme ça un peu. Un fougueux qui parle fort, qui prend la place dans un groupe. Pierre était ce genre-là. Et les Évangiles nous relatent certains de ses bons coups et d'autres de ses moins bons coups, comme on va voir, comme on va parler dans un instant aussi. Mais ce qui est indéniable, c'est que Pierre était un leader. Il était un leader. Les gens suivaient Pierre. Et c'est le texte qu'on voit ici, il dit simplement, il dit pas, « Voulez-vous venir à la pêche avec moi? » Puis ils n'ont pas fait un vote. Hein, un vote, OK, 4 non, 6 oui, bon, la majorité l'a emporté. Non, Pierre a dit, « Moi, je m'en vais pêcher. » Puis il a commencé à marcher. Puis là, toutes les autres, ils l'ont suivi. C'est un leader. Et bien sûr, Pierre était pêcheur de métier, comme certains d'autres des disciples. Et il avait abandonné ses filets pour suivre Jésus. Pendant 3 ans, il avait suivi Jésus. Il avait appris, il avait vécu l'expérience de proche, les miracles, etc. Et à ce moment-ci, dans notre texte, Jésus est mort, il est ressuscité et il est déjà apparu 2 fois aux disciples. Il va apparaître 3e fois dans notre texte. Et Pierre s'en va pêcher. Certains diront, ah, mais c'est un retour en arrière. Il n'aurait pas dû aller pêcher, c'est un retour en arrière. Il retournait à sa vie d'avant de pêcheur. D'autres plus, je sais pas, d'autres vont dire, ben non, mais écoute, il faut bien manger dans la vie. Fait que, il est allé pêcher pour manger. Et peu importe la raison, le point sur lequel je vais attirer votre attention ce matin, c'est son leadership. Et je veux t'inviter à te poser cette question-là. Est-ce que tu es un leader positif ou négatif dans la vie? Tu peux dire « amen » ou « ouch », OK? Parce que chacun d'entre nous, nous avons un niveau de leadership et d'influence, parce que le leadership, c'est l'influence auprès des gens qui nous entourent. Est-ce que tu es le genre de personne qui influence les gens qui t'entourent de façon positive ou négative? Es-tu ce genre de personne qui est constamment en train de te plaindre, qui est constamment en train de chialer, qui est constamment en train de critiquer et de dénigrer les autres? Parce que si c'est des comportements qui t'habitent, tu es un leader négatif et le Seigneur doit changer ton cœur et doit changer ta vie. Le royaume de Dieu avance avec des leaders positifs, des gens qui sont attachés à Jésus et des gens qui influencent un peu ou beaucoup, mais qui influencent des gens qui les entourent à découvrir ce Jésus. Et moi, ce matin, ma prière pour toi, ma prière pour moi, c'est que nous puissions donner des leaders positifs pour le royaume de Dieu. Que la façon qu'on parle, que la façon dont on se comporte, que la façon dont on interagit les uns avec les autres porte et pousse les gens à découvrir Jésus. Qu'on le fasse avec amour, avec bonté, avec douceur, avec foi, qu'on ait des paroles de vie et qu'on puisse influencer les membres de nos familles, les gens qui nous entourent à notre travail, les gens de l'Église, notre cercle d'amis à l'Église, qu'on puisse les influencer de façon positive. Pour que cette Église avance et s'empare de sa prochaine étape, on va avoir besoin d'une multitude de personnes dans l'Église. Pas juste moi, pas juste Pastor Will. Une multitude de personnes dans l'Église qui vont devenir des leaders positifs. Qui vont devenir des leaders positifs, qui vont prendre responsabilité. Parce que le leadership, on pourra en parler longtemps, bien sûr, il y a des livres et des livres écrits là-dessus, des conférences. Je fais juste une parenthèse d'introduction ce matin. Mais oui, c'est l'influence, le leadership, mais c'est aussi de prendre responsabilité. Et pour que l'Église se rende à la prochaine étape, on a besoin que des gens ici, vous preniez des responsabilités dans l'Église. Et moi, j'aimerais honorer les hommes, les femmes qui, semaine après semaine, prennent responsabilité dans l'Église, qui s'impliquent. Ce matin, il manque une quinzaine de personnes, une douzaine de personnes qui sont impliquées auprès de nos précieux enfants. Je les honore ce matin. C'est précieux ce qu'ils font. Ils sacrifient l'extraordinaire réunion que vous êtes en train de vivre en ce moment. Oui, merci pour l'applaudissement. Et... Non. Ça compte pas quand c'est demandé. Ils sont là en train de servir et s'impliquer. Il y a des gens à la sécurité, il y a des gens à l'espace bienvenu, il y a des placeurs qui vous accueillent, il y a des gens à la technique, il y a des gens à la projection, il y avait des gens qui sont arrivés tôt ce matin pour pratiquer, pour la musique, des gens qui s'impliquent partout dans l'Église. J'ai oublié plein de trucs aussi, tellement il y en a. Mais ça prend, pour que l'Église avance, ça prend des leaders, des gens qui disent « Moi, je vais servir mon Église, je vais prendre responsabilité. » Dans mon Église, je vais influencer les autres de la bonne façon, du mieux que je peux. Est-ce que je peux entendre un amen? Devenir un leader positif, c'est à cela que nous sommes appelés et on en a besoin plus que jamais. Si tu es chrétien, tu aimes Jésus, ça fait plusieurs années que tu es chrétien puis tu es ici ce matin et tu n'es pas encore impliqué ou en train de servir, cet automne, on va te tendre une main, on va t'offrir la possibilité de joindre l'équipe et de servir Dieu avec nous. Ça s'en vient très bientôt. Et bien sûr, servir Dieu dans l'Église, c'est une chose, mais on peut servir Dieu partout ailleurs dans la communauté aussi. On peut être un leader positif dans son quartier, dans son voisinage, etc. Vous comprenez ça. Verset 3, on poursuit notre message. Verset 3, « Ils sortirent et montèrent aussitôt dans une barque. Mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Il leur dit, « Les enfants, n'avez-vous rien à manger? » Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc, et ils ne parvinrent plus à retirer tant il y avait de poissons. J'aime ce texte-là, un texte de pêche miraculeuse. Et c'est un peu ça ressemble un peu au texte quand Pierre a été appelé, hein? Il y a eu cette pêche miraculeuse aussi au point que les filets se rompaient. Donc, il y a une image semblable à tout ça 3 ans avant. Et ils vont pêcher toute la nuit. C'est des pêcheurs d'expérience. Ils savent comment trouver le poisson. Et toute la nuit, c'est quand même quelque chose. Avez-vous déjà passé une nuit blanche? Lève ta main si tu as déjà passé une nuit blanche dans ta vie. Je dirais à l'œil comme ça, 60% lever la main. Donc, il y a 40 % de gens sensés dans ce lieu, dans ce moment. Hey, la nuit, on est fait pour dormir, hein? Ceux qui travaillent de nuit, waouh, vous êtes vraiment bons. Moi, je ne suis pas capable la nuit, il faut que je dorme. Et ça me rappelle un moment où j'étais jeune chrétien, adolescent, passionné pour Jésus. Et là, en tant que jeune leader, moi et un de mes amis, on a rassemblé d'autres adolescents pour faire une nuit de prière. Wow! Une douzaine d'ados dans une maison, pas d'adultes, spirituels, pour faire une nuit de prière. Et là, les gens arrivent, on met du worship, et là, on loue le Seigneur, on prie, et on commence le plus tard possible, parce qu'on comprend que ça va être long, une nuit de prière. Fait qu'on a commencé, je pense, il était 11h30 à peu près, quelque chose comme ça. On était déjà très fatigués, très comme ça. On passe une nuit, on va prier. Laissez-moi vous dire ce qui est arrivé. À un moment donné, pendant la nuit, il y en a quelques-uns qui se sont dit, oh, moi, je ne suis plus capable, je m'en vais. Ils sont partis. OK, d'accord. On ne vous juge pas. À un moment donné, d'autres personnes, ils prient puis ils font un genre, tu sais, un amen final. Tu sais, là. Et au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ça veut dire comme c'est assez la nuit de prière, là. Hein? Il est rendu minuit 45, là. C'est pas vrai qu'on va prier jusqu'à 5h du matin. Fait que ceux qui ont dit, là, amen, ça se sont ramassés dans le salon, puis ils ont fait quoi? Ils ont joué à des jeux vidéo. Des ados. Moi aussi, j'étais ado. Des fois, je le suis encore, selon ma femme. Mais... Et moi et un de mes amis, on s'est dit, non, nous, on va être des vrais de vrais. On va prier pendant toute la nuit. Fait que là, on était dans une chambre, on priait, puis lui était à genoux sur son lit. Puis à un moment donné, je priais, puis je marchais, puis là, j'entends. Il était en profonde méditation. Hein? Il était en train de dormir à genoux sur son lit. Eux, les disciples passent la nuit. Toute la nuit à pêcher. Imaginez la scène. Ils combattent le sommeil. Il fait noir. Okay? Il n'y a pas les grosses flashlights actuelles. Il fait noir sur un lac. Il y a sûrement du vent. Il fait froid la nuit sur un lac. Donc, il y a le froid. Il y a le sommeil. Et là, ils veulent pêcher du poisson. C'est des experts qui sont supposés être capables de faire ça. Ils pognent zéro poisson. Rien. Et là, il y a un homme. Ils ne reconnaissent pas que c'est Jésus, puis qu'il leur dit, jetez le filet du côté droit. Puis ils ont jeté le filet du côté droit, puis la Bible nous dit que, on va voir un peu plus loin, qu'il y a eu 153 gros poissons. Hein, Jean les a comptés, puis il l'a mis dans l'Évangile. C'est vrai, on va le lire tantôt, qui se sont pris dans les filets, puis ils n'étaient même pas capables de les sortir de l'eau, que c'était intense. Moi, je me suis posé la question, il était où pendant toute la nuit, ces 153 gros poissons-là? Toute la nuit, là, ils ont vu, oh, ils sont là-bas. Puis là, ils nageaient loin, puis ils nageaient loin. Mais quand Jésus a parlé, puis qu'il a dit, OK, les poissons, c'est le temps, ramassez-vous en tas, à droite de la barque, now. Là, quand ils pensent, c'est spécial. Toute la nuit, ils pêchent. Puis là, ils jettent les filets à droite, paf! Il était là! Il était juste à droite! Tout le long, il était à gauche, non, c'est pas vrai. Mais c'est quand même spécial, c'est quand même miraculeux. Et on va voir dans un instant ce qui a suivi tout ça. Mais quelques leçons de cette pêche miraculeuse. Premièrement, Jésus est meilleur que toi, même dans les domaines où tu es un expert. C'était des pêcheurs. Ils savaient comment pêcher du poisson. Mais Jésus, il est meilleur qu'eux. Puis Jésus est meilleur que toi, même dans les domaines où tu es expert. Peut-être des gens ici, vous êtes psychologue, travailleurs sociaux, vous prenez soin des gens en difficulté, puis vous avez des formations là-dedans. Mais des fois, dans votre travail, dans votre service, Dieu peut t'inspirer quelque chose que tu n'avais pas pensé, que tu n'as pas appris à l'école pour prendre soin de quelqu'un qui est devant toi. Parce que Dieu est meilleur que toi, même dans ce que tu es expert. Donc, chose qu'on apprend aussi, c'est que d'apprendre à dépendre de Dieu et à nous appuyer sur lui. Les disciples ont fait ce qu'ils ont pu, mais quand Jésus a parlé, paf, le miracle est arrivé. Et quand Jésus parle, tout change. Vous savez, Dieu, en parlant, a créé l'univers. Il y a une puissance dans sa parole. Et comprenons ceci, que quand Dieu parle, la chose arrive. La chose arrive. Mais le point le plus important que je veux retenir ce matin, c'est que Jésus peut transformer une longue saison sombre en une saison de miracles. Parce que toute la nuit, ils étaient là, pêchés, à travailler, à essayer de prendre du poisson. Et sans rien prendre. Ils ont travaillé fort, ils ont combattu le sommeil. Et certains d'entre vous, vous avez vécu des saisons dans vos vies à travailler pour Dieu, à servir Jésus dans l'Église, à espérer que le Seigneur agisse, mais sans fruits spirituels. Vous avez fait beaucoup d'efforts, mais vous avez vu peu de fruits, peu de résultats. Vous avez versé vos vies avec sang et sueur pour une Église, vous avez été déçus. Vous avez vécu peu de fruits, peu de progrès, peu de croissance. Peut-être pour certains, beaucoup de souffrances et de déceptions, de difficultés, de blessures personnelles. Et peut-être que vous êtes épuisé de servir le Seigneur parce que vous trouvez que le résultat n'est pas là. D'autres ici, vous parlez de Jésus aux gens qui vous entourent, mais il me semble qu'il n'y a jamais personne qui donne son cœur à Jésus. Il me semble que les gens ne veulent rien savoir. Il me semble que ça ne marche pas. Et j'aimerais te dire que Jésus est capable de transformer une saison de noirceur, une saison sombre, en une saison de vie et de miracles. Il est Christ. Il est puissant. Il peut faire ce changement. Il peut faire ce changement de saison. Vous savez, je crois sincèrement que ce que nous vivons en ce moment, c'est un changement de saison pour Drummondville. Je crois vraiment que premièrement, ce qu'on vit en ce moment pendant l'été, le nombre de personnes qui viennent, les gens qui donnent leur vie à Jésus à chaque semaine, c'est miraculeux. C'est miraculeux et je suis reconnaissant envers le Seigneur pour ça. Et je crois que c'est le début de ce que le Seigneur veut faire. Je crois que la saison d'abondance nous attend. Il y a un changement de saison. Et on va avoir besoin que, comme on a dit au début, que chaque personne dans l'Église prenne sa part, prenne sa place dans l'Église. Vous savez, quand Jésus a appelé Pierre à le servir, à le suivre, il lui a dit, « Maintenant, tu seras un pêcheur d'hommes. » En Luc 5, verset 10. Il allait de même pour Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus leur dit à Simon, « N'aie pas peur désormais, tu seras pêcheur d'hommes. » Et le Seigneur veut faire de nous des pêcheurs d'hommes. Pas que les hommes sont des poissons, mais que le Seigneur veut se faire connaître à tous, que le Seigneur veut révéler son amour, son salut, son pardon à tous. Nous sommes appelés à cela. Vous savez, c'est l'été. Grande déclaration. Et les enfants jouent dehors pendant l'été. Et une des choses que les petits-enfants de mon quartier font, c'est qu'ils courent après des petites grenouilles et des crapauds. Est-ce que vos enfants aussi font ça? Ils trouvent des petites grenouilles, des petits crapauds. Et là, mon fils, sans m'en parler, est rentré dans la maison. Il a pris un gros plat Tupperware. Tu sais, les plats Tupperware chers, là, qui servent à mettre les légumes au frigidaire puis qui sont tous contrôlés. Il a pris celle-là, puis il est allé dehors, puis il a trouvé des crapauds, des grenouilles. Il a mis ça là-dedans. Et là, il a voulu leur faire un habitat. Dans le fond, c'était de la boîte. Et il a mis de l'eau, il a trouvé des bébites, je ne sais pas comment, il a mis ça là-dedans. Et il a mis ça en dessous de la table du patio. Et il les a oubliés là. pendant un bon bout de temps, une couple de jours. Et hier, je sors dehors pour faire le ménage, pour m'activer un peu dehors. Puis là, je vois ça, c'est quoi en dessous de la table? Puis là, je découvre ça. Je dis, « Oh man, sont-ils vivantes? » Là, ils ne pouvaient pas sortir, ils étaient trop hauts pour qu'ils sortent. Ils étaient pognés là-dedans, avec une boîte séchée, plus d'eau, plus d'insectes. Là, je bouge, ils sont vivantes les deux qui étaient là. Ils ont l'air à agoniser. Et là, mon fils n'était pas là, j'ai dit, oh, « OK, je vais devenir un libérateur aujourd'hui. » Donc, j'ai pris le plat, puis je les ai amenés, on a un étang sur notre terrain, donc près de l'étang. L'étang pour une grenouille, ça c'est l'endroit de rêve, l'endroit rêvé. Donc je les ai mis là, puis là, ils ont difficilement sautillé jusque dans l'étang, puis je suis sûr qu'aujourd'hui ils vivent leur meilleure vie, sur le bord de l'étang. Et il y a des gens, tu te sens comme la grenouille qui est prise dans le plat Tupperware depuis longtemps. T'agonises. Il me semble que ça avance pas, il me semble qu'il n'y a pas de vie, il me semble qu'il n'y a pas de fruits. Il me semble qu'il ne se passe rien, il me semble que depuis longtemps, je travaille, j'essaie du mieux que je peux, mais je suis pogné. j'ai pas d'eau, je me dessèche, je suis pas capable de sortir de ma boîte. Mais j'aimerais te dire que Jésus, en un instant, peut te faire changer de saison. Tu peux entrer dans une saison de vie, dans une saison d'espoir, dans une saison de guérison, dans une saison de délivrance, tu peux dire amen si tu veux, dans une saison où tu vas parler de Jésus, puis les gens vont écouter tes paroles, puis ils vont recevoir Jésus dans leur vie, ils vont naître de nouveau. Dieu a une nouvelle saison pour vous et pour notre Église. Amen. Je peux entendre amen et on peut applaudir le Seigneur pour cette nouvelle saison qu'il veut faire. Ésaïe 43, 19 va apparaître à l'écran. Et ça dit ceci. « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Et c'est ce que veut faire, c'est ce que Dieu veut faire dans nos vies ce matin, dans notre Église aujourd'hui. On poursuit le texte, verset 7. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur! » Hein, ils sont sur la barque. Dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, Simon-Pierre remit son vêtement et sa ceinture, car il s'était déshabillé, et se jeta dans le lac. Les autres disciples vinrent avec la barque en tirant le filet plein de poissons, car il n'était pas loin de la rive, à une centaine de mètres. J'aime ce bout de texte-là aussi. Ah, la Bible, c'est bon, la Bible, c'est beau. Et il y a Pierre qui est là, et lui, Pierre... Il s'était déshabillé, donc il se rhabille pour se baigner. Donc les gens, d'habitude, font le contraire. Ils sont habillés, puis ils se mettent en maillot pour se baigner, mais lui fait le contraire. Et ce qui me touche dans ce texte-là, c'est quand il apprend que c'est Jésus, il laisse faire la pêche miraculeuse. Il laisse faire les poissons. Il laisse tomber ses amis. Lui, il a une chose en tête, c'est d'arriver proche de Jésus le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible. La Bible nous dit qu'il va sauter de la barque. Je ne sais pas combien de mètres il restait, ou de centaines de mètres, mais il savait nager, probablement. Alors, il sort de la barque, et là, il nage. Imaginez-le, là, avec son vêtement, là, ça ne va pas nager très bien. Là, il nage vers Jésus. Il retourne vers Jésus de tout son cœur. Ce qui est important de comprendre, c'est que la dernière fois que Pierre avait été en contact avec Jésus, c'était lorsqu'il a renié Jésus. Vous vous rappelez de ça? Dans la Bible, dans l'Évangile, je l'ai-tu ici? On va lire plus tard, on va y revenir. Et là, il devait se sentir, bon, on voit que la Bible nous dit qu'il pleurait amèrement après avoir renié Jésus à trois reprises. Il pleurait amèrement, triste, il devait avoir honte, se sentir coupable, déçu de lui-même. Mais lorsque Jésus est là sur le bord de la rive, il s'approche de lui de tout son cœur, de toutes ses forces. Il nage vers lui, il saute de la barque pour s'approcher de lui. Et il y a une leçon à comprendre là-dedans, c'est que Dieu nous appelle lorsqu'on pêche, lorsqu'on fait des erreurs, lorsqu'on fait des gaffes, lorsqu'on se sent coupable et honteux. Dieu nous appelle à développer le réflexe de revenir vers lui rapidement. Humainement, c'est le contraire qu'on fait. Humainement, lorsqu'on fait un péché, une erreur, on a honte. Et là, on se cache de Dieu, on s'éloigne de Dieu. Un peu comme Adam et Ève lorsqu'ils ont péché. On reste loin de Dieu parce qu'on a honte et puis qu'on ne sait pas trop comment il va nous accueillir. On ne sait pas trop s'il va encore nous pardonner. Puis des fois, on est dur envers soi-même et on se dit, ben voyons que j'ai parlé comme ça, voyons que j'ai agi de telle façon. Ça n'a pas de sens. Puis t'es déçu puis t'es fâché contre toi. Et puis souvent, notre réaction humaine, c'est de se cacher puis de s'éloigner de Dieu. Puis il y a des gens... Ça fait des années que tu es comme ça. Tu as honte de toi. Tu as honte des choix que tu as faits, des décisions que tu as prises. Puis, tu n'arrives pas à revenir à Dieu parce que tu as trop honte. Parce que tu te sens trop mal, trop coupable de tes erreurs. Mais j'aimerais te dire ce matin que la bonne chose à faire quand on s'éloigne de Dieu, c'est de revenir rapidement à lui. Comme Pierre, on se jette dans le lac. On nage vers lui. On court vers lui. On s'approche de lui de tout notre cœur. Il y a plusieurs années de ça, j'avais un condo à Longueuil. Mon amie Myriam, qui est ici, se rappelle ce moment-là. Et il y avait des amis qui étaient chez nous. C'était pas eux, c'était d'autres amis. Et on était là-bas et il y avait un petit garçon qui était là. Et le petit garçon était en apprentissage de la propreté. Hein? En apprentissage de la propreté. Et là, nous autres, on parle ensemble, puis on l'entend, il est bruyant, puis tout ça, il s'amuse. Et tout d'un coup, on n'entend plus rien. C'est jamais un bon signe. Quand un jeune enfant, tu l'entends plus. Puce à l'oreille. Oh, qu'est-ce qui se passe? On n'entend plus rien. Et là, on le cherche, puis on ne le trouve pas. Il se cachait de nous autres. Ah ben! On ne le trouve pas, on l'entend pas, il se cache de nous autres. Qu'est-ce qui se passe? Et là, on s'approche, et là, on se rend compte que dans son apprentissage de la propreté, il nous a fait un beau cadeau par terre. Si vous ne comprenez pas le détail, venez me voir après la réunion. Et là, on s'approche de lui. Puis là, on lui demande, « Mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé? » Puis là, il va nous répondre une phrase qui jusqu'à maintenant, me charme, une phrase trop cute. « C'est pas moi, c'est Molly! » Molly était un chien. Ce chien n'était pas dans la pièce avec nous. Et ce chien n'était même plus dans cette famille. Il s'en était débarrassé ou il était malade, je ne me rappelle plus. Et le chien n'était pas là. « C'est pas moi, c'est Molly! » C'est parce que Molly n'est pas ici. Oh! Et des fois, on est comme cet enfant. On fait des erreurs, on fait des gaffes. Puis, au lieu de confesser nos péchés, de revenir à Dieu, on se cache de Dieu. On reste loin de Dieu. Parce qu'on a honte. Puis, au lieu de dire, « Je te demande pardon, Seigneur », on excuse notre péché, on accuse quelqu'un d'autre, on se défend de nos erreurs, de nos mauvaises habitudes, alors que le Seigneur t'invite à t'approcher de lui avec honnêteté, avec simplicité, et dire, « Seigneur, je te demande pardon et je reviens à toi immédiatement. » Amen. Amen. Dites avec moi, « C'est pas moi, c'est Molly. » J'espère que vous allez retenir cette image-là. Pierre est sauté dans l'eau et revenu au Seigneur, rapidement. Et là, on va lire au verset 9. « Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira le filet plein de 153 gros poissons à terre. Malgré leur grand nombre, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osa lui demander « Qui es-tu? » car il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même avec le poisson. C'était la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité. Verset 15. « Lorsqu'ils eurent mangé, » on arrive à ce moment spécial que vous avez déjà entendu si vous êtes chrétien depuis longtemps. « Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » puisque celui-ci. Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre lui dit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Il lui dit la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi? » Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit la troisième fois, « As-tu de l'amour pour moi? » Il répondit, « Seigneur, tu sais tout? Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. » Texte puissant, magnifique, intime entre Jésus et Pierre. Et je me posais la question, pourquoi Jésus il répète? La cassette est pognée, Jésus, là. Trois fois, tu demandes la même affaire, il te répond la même chose, tu lui re-réponds la même chose. Trois fois! Et je vais vous lire un texte dans Matthieu 26, verset 69, qui pourrait expliquer pourquoi Jésus a dit trois fois, « M'aimes-tu? » Matthieu 26, verset 69. « Or, Pierre était assis dehors dans la cour. Hein, » Jésus était dans la cour en train d'être interrogé et maltraité. Et une servante s'approcha de lui et lui dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus, le Galiléen. » Mais il le nia devant tous en disant, « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Cet homme aussi était avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau, avec serment. « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là s'approchèrent et dirent, à Pierre, « Certainement, toi aussi, tu fais partie de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Alors, il se mit à jurer, en bon québécois, à sacrer, en lançant des malédictions. « Je ne connais pas cet homme, bip, bip, bip. » Aussitôt, un coq chanta. Pierre se souvint de ce que Jésus lui avait dit, « Avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. » Et il sortit et pleura amèrement. Je vous propose que si Jésus a dit trois fois, « M'aimes-tu, Pierre? » C'était pour faire le lien avec cet épisode et dire, « Regarde, je te pardonne. Je te pardonne. Et je restaure ton appel. » Parce qu'il va dire, « M'aimes-tu? » Il va dire, « Oui, je t'aime. » Il va dire, « Prends soin de mes brebis. » Le Seigneur lui redonne le mandat, celui de prendre soin des brebis, qui était son appel, qui est notre appel aussi, de prendre soin des autres, de prendre soin de l'Église. Et on sait que Pierre a joué un rôle déterminant dans la fondation de l'Église primitive, de l'Église de base, qu'on voit dans les Actes des apôtres. Il y a quelques trucs qu'on apprend dans ce texte-là. J'approche la fin du message. Je veux qu'on prenne le temps pour prier tantôt ensemble. Je vais inviter les musiciens à s'avancer. Ce qu'on apprend dans ce texte-là, c'est que Jésus nous pardonne aussi souvent que nous en avons besoin. Jésus nous pardonne aussi souvent que nous en avons besoin. La vérité, c'est qu'on voudrait être parfait, on voudrait plaire à Dieu, on voudrait ne jamais pécher, mais si vous êtes comme moi, vous aussi vous faillissez des fois, n'est-ce pas? Vous aussi, vous avez des moments de faiblesse, des moments où vous commettez un péché, où vous parlez de façon inappropriée, où vous pensez à des choses inappropriées. On est encore sur cette terre. On est encore dans ce corps. Et on a encore besoin du pardon de Jésus. Mais j'aimerais vous dire que Jésus te pardonne à chaque fois que tu en as besoin. Jésus n'est pas un être humain. Il ne se tanne pas de te pardonner. Il t'aime. Sa grâce envers toi est infinie. Son amour envers toi n'a pas de limite. Et nous, on est durs envers nous-mêmes et nous, on a de la difficulté à se pardonner. Mais quand on s'approche de Jésus, il nous pardonne automatiquement. Il nous pardonne. Il est mort à la croix pour tes péchés. Son sang a coulé pour tes fautes. Il a porté tes erreurs et il est ressuscité. Et ça, c'était pour tous tes péchés. Tes péchés passés, présents et futurs. Donc, je veux te rappeler ce matin que tu peux revenir à lui. Il t'accueille, peu importe la quantité de choses mal que tu as faites, que ce soit comme ça ou comme ça, il te pardonne, il t'aime, il t'accueille. Tu es le bienvenu dans sa présence. On apprend aussi que nos échecs et nos erreurs n'annulent pas l'appel de Dieu sur nos vies. Il y a des gens, tu es appelé à servir Dieu. Je ne sais pas où, je ne sais pas de quelle façon. Tu ressens ça dans ton cœur, tu ressens cet appel de Dieu à le servir, à mettre ta vie à part pour lui. Mais tu n'avances pas dans cet appel parce que, à cause de tes péchés, à cause de tes erreurs, parce que tu ne te sens pas à la hauteur. Et j'aimerais te dire que l'appel de Dieu, c'est aussi une grâce que Dieu nous fait. Ce n'est pas quelque chose qu'on mérite. Ce n'est pas parce que tu es assez bon que tu peux finalement un jour servir Jésus parce que là, tu es rendu assez bon. Si c'était le cas, je ne serais pas ici devant vous. Je ne serais pas là devant vous en train de prêcher parce que je suis un être humain pareil comme vous tous, qui a ses moments forts, ses moments moins forts. Puis j'ai besoin du pardon, moi aussi. L'autre chose qu'on apprend dans ce texte, c'est que aimer Jésus est indissociable d'aimer et de servir les autres. Jésus va dire à Pierre, « M'aimes-tu? » Pierre va répondre, « Oui. » Je t'aime. Qu'est-ce que Jésus va dire par la suite les trois fois? Il va dire, prends soin de mes brebis, nourris mes agneaux, prends soin de mes brebis. Et aujourd'hui, je veux nous rappeler que d'aimer Jésus, ça veut obligatoirement dire d'aimer les autres et de servir les autres qui nous entourent. Et certains d'entre nous, on a besoin d'être renouvelés dans notre compassion, dans notre amour pour les gens qui nous entourent. On dit qu'on aime Jésus, mais comment est-ce qu'on le démontre? Par l'amour, envers les autres. Donc, ce matin, en terminant ce message, on va juste lire le dernier verset du dernier chapitre de l'Évangile de Jean, qui dit ceci. C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde entier pourrait contenir les livres qu'on écrirait. C'est beau, c'est une belle conclusion, je trouve. Belle conclusion pour le livre, l'Évangile de Jean. Et ce matin, un rappel rapide de ce qu'on a vu ensemble. Nous sommes appelés à devenir des leaders positifs dans le royaume de Dieu et dans l'Église. Être des gens qui, par notre attitude, nos actions, nos paroles, nos comportements, qu'on puisse influencer de façon positive les gens qui nous entourent. On a vu également quelques leçons de cette pêche miraculeuse, mais surtout le fait que Jésus peut transformer une longue saison sombre, hein, comme cette nuit sur l'eau, en une saison de miracles. Il peut le faire dans ta vie. Il veut le faire dans notre Église. Une saison de miracles, une saison de croissance, de vie. On a vu également que Pierre, lorsqu'il a su que c'était Jésus, il s'est jeté à l'eau. Et ça nous rappelle que nous sommes appelés à revenir à Dieu rapidement lorsqu'on s'éloigne de lui. Et en terminant, on a vu que Jésus nous accorde son pardon et qu'il restaure son appel envers nous. Je t'invite à fermer les yeux un instant, à te recueillir dans la présence de Dieu. Je vais prendre juste une petite gorgée d'eau. Alléluia. Ce matin, j'ai deux invitations, deux appels. Parce que vous savez, on ne veut pas être des auditeurs passif, mais nous voulons recevoir la parole de Dieu. Nous voulons l'appliquer dans notre vie. Ce n'est pas un spectacle ce matin. C'est un moment où tu peux te connecter à Dieu. Alors ce matin, si tu es dans ce lieu et que tu t'es éloigné de Dieu un peu ou beaucoup, depuis peu de temps ou depuis longtemps, ce matin, je t'invite à revenir à lui de tout ton cœur. À faire comme Pierre. Pierre s'est jeté dans le lac, il est revenu à lui. Et je t'invite à revenir à Jésus ce matin, sans hésitation. Je te rappelle que Jésus t'aime, te pardonne, t'accueille. Alors, si tu te sens loin de Dieu, si tu t'étais éloigné de lui, et ce matin, tu aimerais profiter de cette journée, de cette matinée pour t'approcher du Seigneur, pour revenir à lui. Je t'invite à lever ta main dans ce lieu et à dire, moi ce matin, je reviens à Jésus. Je reviens à Jésus. Je m'approche de lui. Plusieurs mains qui se lèvent dans ce lieu. Et tu peux être un chrétien et avoir besoin de revenir à Jésus. Peut-être que tu t'étais déconnecté de lui. Peut-être que ton péché t'avait éloigné de lui, mais ce matin, tu veux revenir à lui. De tout ton cœur, de toute ta force. Tu vas arrêter de fuir, arrêter de te cacher, arrêter de t'excuser ou de t'expliquer. Et tu veux fléchir le genou devant Jésus et dire, Seigneur, je reviens à toi ce matin. Merci pour les nombreuses mains qui se sont levées. Tu peux rebaisser ta main par la suite. Dans un instant, on va prier ensemble. Je prie avec vous. Une prière de retour à Dieu, une prière de connexion avec Jésus. Une prière un moment de prière qui, je l'espère, va te conduire dans une saison de vie, une saison de liberté. Tu vas passer d'une saison de noirceur à une saison de vie. Mon deuxième appel ce matin, c'est pour des gens qui aimerait répondre à l'appel de Dieu, l'appel à le servir. Ça ne veut pas dire nécessairement de devenir un pasteur ou de chanter à l'église. Ça peut être de servir Dieu de toutes sortes de façons, avec les dons, les talents que Dieu t'a donnés, avec ton temps. Et ce matin, comme Jésus a renouvelé l'appel sur la vie de Pierre,
prendre soin des brebis, tu aimerais aussi ce matin dire, moi, je veux servir Dieu. Du mieux que je peux, avec mes forces, mes faiblesses, mais je ne veux pas être un spectateur dans la vie chrétienne. Je veux être actif. Je veux être un leader. Je veux me lever. Je veux prendre position pour Christ et je veux le servir. Donc, si tu as ce désir-là dans ton cœur, si tu as ce souhait, cette prière de dire, moi, je veux servir le Seigneur. Lève ta main devant Dieu et dis, moi, je veux te servir, Seigneur. Je veux te servir. Lève ta main bien haute devant le Seigneur. Le Seigneur veut renouveler des appels ce matin. Il veut renouveler des appels ce matin. Tellement précieux, tellement privilégié que nous sommes de pouvoir le servir, de pouvoir marcher à sa suite, de pouvoir prendre soin de ses brebis. Alléluia. Et ce qu'on va faire en terminant ce matin, on va prendre un moment dans la présence de Dieu avant de se quitter, avant de passer à autre chose. Je vous invite à juste à quelques minutes encore dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu. Est-ce qu'on peut tous se lever à notre place et on va chanter un chant et je t'invite à louer Dieu. Je t'invite à prier Dieu. Je t'invite, certains vont dire, Seigneur, ce matin, je te demande pardon. D'autres vont dire, Seigneur, je te redonne ma vie. D'autres vont dire, mon Dieu, je veux te servir. Je mets ma vie à ta disposition. Je veux te servir. Je veux vivre pour toi. Je veux être un leader positif pour le Seigneur, pour l'Église. Alors, chantons ce chant ce matin. Et ne sois pas un spectateur, mais participe. Approche-toi de Dieu. Chante, prie, profite de ce moment. Alléluia.
Toi, j'ouvre mon cœur.